Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire de Lyon. Eh bien, donc, rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute, comme tous les mercredis, de 20h à 21h, sur l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire de Lyon. Et on vous invite, évidemment, on le rappelle, comme tous les mercredis, de venir nous voir, nous rencontrer sur notre librairie, dans notre librairie, donc La Plume Noire, 8 rue Diderot, dans le 1er arrondissement de Lyon. Plein de choses à regarder, à voir et à discuter aussi en même temps. Donc voilà, c'est pour passer une bonne après-midi, un samedi après-midi, donc de 15h à 19h, et le mercredi, tous les mercredis et tous les samedis, donc de 17h à 19h en ce qui concerne le mercredi. Voilà pour ce qui est de notre présentation, et on va commencer une première page.
Oui, on va commencer par une première page d'information sur ce 102.2 de Radio Canu, sur cette émission Idées Noires. Et puis quand même, on peut le signaler, hein, la date, c'est pas un hasard, on est quand même le 10 novembre. Demain, c'est férié, on va pas aller au Turbin. Du coup on peut se demander si ça va pas inspirer un peu la thématique de notre émission. Et la thématique de notre émission, non pas dans le contenu, mais en tout cas dans ces différentes plages musicales, elle va être inévitablement marquée par la thématique de l'antimilitarisme. C'est un peu une tradition, hein, en cette veille de grande boucherie de la commémoration de 14-18, où le mouvement ouvrier a été quand même largement saigné dans les tranchées, qu'elles soient françaises, allemandes et russes, même si le peuple russe en a profité ensuite pour se soulever et se rebeller. Nous, on veut faire entendre dans cette émission Idées Noires notre tradition antimilitariste, notre tradition qui a toujours été du côté des mutins, des déserteurs et des insoumis, de ceux qui ont su crier et dire sous toutes leurs formes « à bas la guerre ». Et puis avoir une pensée pour ces millions de paysans, d'ouvriers, de gens issus des classes populaires qui se sont fait trouer la peau pour des intérêts qui n'étaient pas les leurs, qui étaient les intérêts des bourgeois, qu'ils s'appellent Schneider ou qu'ils s'appellent Krupp, qu'ils soient d'un côté de la frontière ou de l'autre. C'est bien eux qui ont su profiter de la Première Guerre mondiale. On sait que cette guerre, les peuples, comme bien souvent, même comme toujours, on pourrait dire, n'avaient strictement rien à y gagner, mais tout à y perdre. Que cette guerre, c'était le produit des rivalités nationalistes en Europe, que cette guerre, c'était le produit des rivalités colonialistes pour le partage de l'Afrique et de l'Asie entre pays européens, et tout ça, bien évidemment, pour renforcer leur puissance économique dans un contexte de rivalité industrielle, notamment entre l'Angleterre et l'Allemagne, en ce début de XXe siècle, suite à la montée en puissance de la révolution industrielle, et que bien sûr, il y avait aussi des revendications territoriales, telles la France qui souhaitait vivement récupérer l'Alsace et la Lorraine. En tout cas, toutes ces raisons ont fait que les bourgeois et les dirigeants de tous les pays belligérants dans ce conflit se sont saisis de la moindre occasion et en attendant et en l'occurrence de l'attentat de Sarajevo de juin 1914 pour précipiter l'Europe dans la guerre et que derrière tout ça, en précipitant cette Europe dans la guerre, par-delà les intérêts capitalistes, nationalistes et territoriaux et coloniaux qui pouvaient s'y exprimer, on sait que pour certains pays, c'était une façon de mettre au pas le mouvement ouvrier, que pour la France, en tout cas, ou pour l'Allemagne aussi, ça permettait de mater un mouvement syndical qui était que trop puissant en Allemagne, un mouvement syndical qui était que trop puissant en France, avec une CGT encore fortement marquée par les idées syndicalistes révolutionnaires, une CGT qui avait fait trembler la bourgeoisie en déclenchant une grève générale en 1906, et ben une bonne petite saignée permettait d'en finir avec ces troublions, permettait de désorganiser le mouvement ouvrier, permettait de rallier une frange de celui-ci malheureusement à l'Union nationale et au sirène du nationalisme, ce qui s'est passé pour certains, tel Léon Jouot, qui a appelé le mouvement ouvrier à rejoindre la guerre sur la tombe de Jaurès. Et ça a cassé une véritable dynamique, puisqu'on sait que le mouvement ouvrier qui est rené de cette première guerre mondiale au lendemain du 11 novembre 1918, c'était plus celui de l'avant 1914. C'était un mouvement ouvrier qui avait été rajeuni par des jeunes qui étaient rentrés en usine durant cette guerre et qui n'avaient pas la tradition des luttes syndicales et la culture syndicaliste révolutionnaire de la CGT d'avant-guerre. C'est un mouvement qui a été bolchevisé par l'illusion de la grande lueur née à l'est de la révolution russe. C'est un mouvement féminisé par l'entrée massive des femmes dans le travail industriel et un mouvement ouvrier qui va se reconstituer de manière différente, mais en tout cas dont certaines traditions ont été cassées. Et c'est pas un hasard si de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, seul pays qui n'a pas participé directement au conflit de cette première guerre mondiale, il y a eu une continuité dans l'histoire du mouvement ouvrier et que la jeune Confédération nationale du travail anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire créée en 1911 a poursuivi sa route jusqu'à être si puissante en 1936 au point d'opposer la plus belle expérience de révolution sociale face au danger fasciste et face à la tentative de coup d'état nationaliste du général Franco. Voilà ce qu'on voulait quand même rappeler pour commencer cette émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'actualité, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va revenir sur le procès de nos camarades antifascistes qui s'est tenu jeudi dernier à Lyon. On va revenir sur, bien sûr, les luttes syndicales d'ici et d'ailleurs qui peuvent avoir lieu. On va faire un point international peut-être un peu plus long que d'habitude par rapport à la situation dramatique des migrants qui est en train de se dérouler à la frontière polonaise, à la frontière est de la Pologne. Voilà, ça va être un peu le programme de cette émission Idées Noires en ce mercredi 10 novembre 2021. Bon, comment on souhaitait commencer en rappelant quand même tout ce qu'on pensait, tout le mal de ce qu'on pense de cette première guerre mondiale qui a été une véritable saignée pour les classes ouvrières européennes, qui a été une véritable saignée pour les populations. On sait que la guerre, elle profite toujours aux puissants, jamais aux classes populaires, que le slogan « pas de guerre entre les classes, pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes » est plus que jamais d'actualité et que hier comme aujourd'hui, on sera antimilitariste toujours. Et c'est pour ça qu'on veut que cette émission, on va la consacrer spécialement dans nos plages musicales à faire résonner encore le chant de l'antimilitarisme. Et c'est notre camarade Serge Giroyot qui va nous accompagner au cours de ces différentes plages musicales. Et on va tout de suite commencer avec un incontournable écrit dans les tranchées en 1917 par des anonymes, parce que certainement écrit à plusieurs mains, à plusieurs voix, collectivement par des poilus qui en avaient assez de la barbarie et de l'horreur et qui ont exprimé à tour de rôle différents couplets, différentes idées pour composer cette chanson. Cette chanson, elle a été écrite sur le plateau à Craonne. C'est bien sûr cette fameuse chanson de Craonne qui sera d'ailleurs interdite à la sortie de la guerre, qui l'était dans la sortie de la guerre et avec laquelle on va commencer cette émission Idées Noires, la chanson de Craonne interprétée par Giroyot.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Eh bien voilà, merci Serge. Donc vous êtes à l'écoute sur Radio Canus en 2.2 de l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire à Lyon. Voilà, on va passer donc après cette musique.
Cette petite page antimilitariste pour
cette
commencer.
Cette petite page
avec,
antimilitariste, on va passer à une page
antifasciste.
Antifasciste.
Voilà, on s'en passerait bien d'ailleurs, mais malheureusement, ça devient une actualité récurrente à Lyon depuis un moment. Et on vous en parle quasiment à chaque émission. On ne va pas revenir sur la réussite de la manifestation contre les violences d'extrême droite qui a eu lieu il y a maintenant plus de 15 jours à Lyon. Par contre, on va revenir sur le procès qui a
eu lieu jeudi dernier de 7 militants antifascistes lyonnais, puisque vous n'êtes pas sans savoir, on vous en a parlé à plusieurs reprises, que depuis le 23 septembre dernier, 7 militants antifascistes lyonnais étaient poursuivis par le parquet de Lyon pour une altercation qu'ils avaient eue avec les intégristes catholiques du groupe Civitas, un groupe, on le rappellera jamais assez, qui prône l'instauration d'un régime théocratique en France, avec la reconnaissance du catholicisme comme seule véritable religion, par exemple. Une altercation qui avait eu lieu lors d'une marche contre le pass sanitaire, manifestation que ces groupes d'extrême droite avaient tenté de récupérer afin de diffuser leurs idées nauséabondes qu'on connaît que bien trop, qu'elles soient racistes, antisémites, islamophobes, homophobes ou transphobes. Voilà, suite en tout cas à cette altercation, 7 militants sur saisie uniquement du parquet avaient été arrêtés, mis en garde à vue, inculpés, et 4 d'entre eux avaient même été embastillés et depuis le 23 septembre dernier étaient derrière les barreaux en attente d'une comparution immédiate différée, nouvelle procédure qui les amenait à un procès jeudi dernier, jeudi 5 novembre dernier. À l'occasion de ce procès, il faut signaler que plus de 150 personnes, entre 150 et 200 personnes, sont venues soutenir les inculpés, soit en étant dans la salle d'audience, soit en se rassemblant de 14 à jusqu'à quasiment 22h, 22-23h, jusqu'au délibéré, malgré le froid et la nuit qui tombait devant le tribunal d'instance de Lyon. On a assisté à une mascarade à tous les niveaux, telle que l'a été ces poursuites, d'une part dans ce qui a été réclamé de par le procureur, puisque le procureur est réclamé quand même de 1 à 3 ans d'interdiction de manifestation, du sursis pour les non-détenus et jusqu'à 2 ans de prison, dont un seul avec sursis au maximum pour l'un des inculpés. La peine minimum était celle de 2 mois avec sursis. Ça, c'est ce qui était réclamé par le procureur. La défense, elle, a essayé de démontrer l'aberration de ce procès en montrant que les comparutions immédiates ne devraient pas s'appliquer pour des affaires politiques, en montrant que le dossier était un dossier qui avait été monté uniquement à charge à la demande du procureur, et puis en demandant la relaxe pour les faits de violence, ainsi que pour les faits de réparation de violence, puisque ceci était d'ordre largement partagé avec les militants de Civitas. Et puis surtout, comme on en parlera un peu plus tard, les avocats ont souligné l'impunité dont bénéficie par contre elle, l'extrême droite dans son ensemble, sur la scène lyonnaise par rapport à toutes ces actions. De plus, ce qu'il fallait souligner, c'était l'anonymat des membres de Civitas qui avaient été soi-disant agressés, qui n'avaient pas porté plainte non plus, et qui étaient problématiques parce qu'ils avaient avoir été contactés par la police, aucune trace de leur nom a eu lieu nulle part, ce qui rendait en fait leur comparution immédiate impossible, et c'est-à-dire que les avocats de la défense ne pouvaient pas les appeler à témoigner à la barre pour essayer de leur poser des questions sur ce qui s'était réellement passé durant cette histoire. Les avocats, ils ont vraiment démonté totalement cette affaire. Ça a été montré que c'était clairement on peut dire abusé, que ça a été très largement une mascarade, et au final, tous les militants antifascistes ont été quasiment relaxés. En tout cas, ils ont tous été libérés à l'issue de cette journée. Ils ont pu retrouver les nombreux soutiens qui les attendaient dehors. Et ils ont tous été relaxés à propos du groupement en vue de commettre des violences. La violence, elle a été requalifiée en violence sans ITT, sans circonstances de réunion. Et il y a eu simplement une amende de 300 euros pour 4 personnes. Les 3 autres ont été, elles, entièrement relaxées. Et puis 2 personnes se sont vues condamnées à 1 mois de sursis, notamment pour une personne qui avait refusé de donner son ADN lors de la garde à vue, et 1 mois de sursis pour une autre personne qui avait refusé de donner le code PIN de son téléphone portable lors de son arrestation. Donc voilà, par rapport à ce qui avait été demandé par le procureur, 2 ans d'emprisonnement pour certains d'entre eux, et puis des interdictions interdiction de manifestation, du sursis, etc., on se rend compte que le juge s'est rendu compte que le dossier était complètement vide, que ça a fait pchit, et que finalement, les antifascistes sont sortis libres, mais avec des peines minimes pour d'autres raisons que celles qui étaient inculpées. Néanmoins, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est quand même un sacré coup de pression qui a été fait sur le milieu militant antifasciste lyonnais, et puis que 4 militants ont quand même passé un mois derrière les barreaux. Quand on connaît les conditions d'incarcération, qu'elles soient psychologiques et physiques, et le traumatisme que ça peut représenter, eh ben, incontestablement, ça laisse des traces, surtout quand finalement, c'était tout ça par une simple volonté de répression politique de la part du parquet, de la part de la police de Lyon, contre ces militants antifascistes. En tout cas, on peut se féliciter que, depuis jeudi dernier, ces 4 militants qui étaient derrière les barreaux dorment au chaud et tranquille chez eux, qu'aucune peine, aucune peine ne pèse sur eux, et qu'ils aient pu enfin retrouver la liberté. Voilà ce qu'on voulait dire pour commencer cette page antifasciste. Et puis surtout, ce qu'on voudrait dire aussi, c'est qu'on aimerait bien, mettre ça en parallèle avec justement le traitement qui est fait des violences de l'extrême droite sur Lyon, puisque on vous rappellera jamais assez qu'au mois de mars dernier, au mois de mars 2021, c'était une cinquantaine de militants fascistes qui, eux, avaient attaqué la librairie autogérée La Plume Noire, notre librairie de l'Union Communiste Libertaire, sur les pentes de la Croix-Rousse, en pleine journée, de façon violente, en détruisant les vitrines à coups de pavés et de slogans hostiles, et que la librairie, elle avait déposé une plainte, et sans grande surprise, on a appris à l'heure que s'ouvrait justement ce procès des militants antifascistes, que cette plainte, elle avait été classée sans suite, ce qui est quand même assez fou, parce que alors que le procès des 7 militants antifascistes lui s'est ouvert, alors que les inculpés l'étaient sans plainte des prétendues victimes, pour, comme on l'a dit, des faits de violence volontaire en réunion, les militants de la librairie La Plume Noire, qui eux avaient porté plainte, ont vu leur plainte être classée, et aujourd'hui on peut que dénoncer ce qui apparaît très clairement comme une complaisance de la police et de la justice lyonnaise envers les violences finalement de l'extrême droite, parce que soit les plaintes sont mises au tiroir dans les tiroirs des commissariats, soit elles sont classées sans suite par le parquet. On pourra rappeler qu'en plus ça s'inscrit, c'était pas un fait isolé, que notre librairie elle avait été prise à plusieurs fois pour cible par les militants d'extrême droite et a subi plusieurs attaques violentes en 5 ans. En novembre 2016, déjà lorsqu'il y avait eu un rassemblement de catholiques intégristes qui était interdit par la préfecture à quelques pas de la librairie Place Colbert, il y avait eu une première attaque de celle-ci en pleine journée. En décembre 2020, c'était 2 bénévoles de l'association PES qui avaient été tabassés alors qu'ils fermaient la librairie à la fin de journée de collecte de jouets pour les fêtes de fin d'année pour les nécessiteux, que les 2 plaintes qui ont été déposées à ce moment-là ont été oubliées dans les tiroirs et on est toujours sans suite. Et puis enfin, en mars de 2021, on l'a dit, en plein après-midi à 14h, là encore, alors qu'il y avait une collecte alimentaire qui avait lieu dans la librairie, cette fois-ci, c'était une cinquantaine de fascistes qui prenaient d'assaut la librairie en détruisant les vitrines à coups de pavés et à coups de slogans fascistes et hostiles, que cette attaque, elle a été filmée pourtant, qu'il y a eu de nombreuses vidéos, et pourtant, pas de suite. Sur les 2 attaques et l'agression des 2 bénévoles, des plaintes ont été déposées, et après s'être renseigné via un avocat pour savoir où ces plaintes en étaient, le résultat, il ne nous surprend pas. La plainte de 2021, elle a été classée sans suite, alors qu'au moins 2 militants d'extrême droite avait été clairement identifié sur les vidéos par les plaignants. Et puis les plaintes de 2016 et de décembre 2020, elles n'ont même pas été enregistrées au tribunal et sont restées dans les tiroirs des commissariats et aucune enquête n'a eu lieu. Ce qui est quand même scandaleux, et ce sont des faits qui démontrent clairement une chose, c'est que la police et la justice lyonnaise, elles protègent l'extrême droite malgré les preuves, et elles s'acharnent sur les militants antifascistes, les militants syndicaux, les militants associatifs, comme on a pu le voir la semaine dernière. Alors, encore une fois, on peut que constater que loin d'être des instruments neutres au service de la collectivité, comme le prétendent un certain discours républicain, ces institutions que sont la police et la justice, en fait, c'est des institutions qui servent un pouvoir politique qui regarde avec complaisance la violence fasciste et qui considère celles et ceux qui luttent pour plus d'égalité comme des dangers publics. Et on sait très bien que finalement, on n'a pas grand-chose à en attendre et que c'est surtout en nous mobilisant de manière collective que nous pourrons imposer au pouvoir public de rompre avec cette complaisance et puis surtout cette politique de deux poids, deux mesures qui est faite par la justice envers justement les personnes qui sont incriminées. Voilà ce qu'on voulait quand même rappeler sur la situation de l'extrême droite lyonnaise et puis sur justement l'impunité avec laquelle elle agit. Toujours du côté de l'extrême droite, on pourrait aussi signaler cet autre fait qui a été révélé timidement par la presse la semaine dernière du côté de l'ICEP. L'ICEP, vous savez, c'est l'Institut des sciences et d'études politiques qui a été créé à Lyon par Marion Maréchal Le Pen. Il y a une étudiante de 24 ans de cet institut qui a subi un viol commis par un membre de l'ex-organisation d'extrême droite Génération Identitaire et qui, suite à ça et suite à l'avoir dénoncé, subit au sein de cette école un certain nombre de bizutages et de harcèlements de la part de cofondateurs de l'institut et de la directrice administrative de l'établissement, qui sont des anciens élus d'ailleurs du Rassemblement National au niveau local et régional. Deux dirigeants de l'ICEP qui d'ailleurs sont visés par une enquête pour harcèlement moral, donc à la suite de la plainte qui a été déposée par cette étudiante de 24 ans, donc comme on le dit, qui est suite à un viol qui a été commis chez elle par un membre de Génération Identitaire le 11 septembre dernier. L'agresseur, qui était membre de Génération Identitaire, qui organisait fréquemment des soirées à la Traboule en collaboration avec l'Institut des sciences et études politiques, ce qui est quand même assez hallucinant. Que va-t-il devenir de ce dépôt de plainte aussi? Que va-t-il devenir de cette étudiante? On se rend compte que là aussi, c'est pas le même empressement de la justice à se saisir de l'affaire que la même chose qui s'est passée pour nos camarades antifascistes. En tout cas, on sait que depuis des années, les associations et les organisations antifascistes dénoncent l'existence même du local La Traboule, qui est de l'Institut de Marion Maréchal Le Pen, qui est en fait un centre de formation pour cadres d'organisation et de partis de l'extrême droite, et que cette triste histoire de viol couvert par cet institut et de harcèlement moral qui est fait ensuite contre cette victime, ne fait que rappeler que ces différents lieux sont très interconnectés et visent tous à faire de Lyon un centre de propagation des idées, de formation des cadres de l'extrême droite, où ceux-ci se sentent en toute puissance et en toute impunité pour agir de telle façon, allant jusqu'au viol dans le cadre privé, en se sentant couvert ensuite au sein de cet institut. Voilà pour conclure cette petite page antifasciste dont, une fois de plus, on se passerait bien dans cette émission Idées Noires, mais qui est important à souligner pour montrer ce qu'est la réalité de la peste brune à Lyon et comment les pouvoirs publics sont bien souvent complices. Allez, on retourne
une petite musique.
Dans une autre pause musicale, on retourne dans les tranchées de 1914-1918, là aussi dans une autre triste réalité, avec de nouveau Serge Gériot qui, dans un très beau morceau, rend hommage à tous ceux qui, en 1917, au printemps 1917, ont décidé de faire crosse en l'air, ont retourné les armes, et dans toutes les tranchées, parfois en écho à ce qui se passait en Russie, où le peuple s'était soulevé, avait provoqué une grande révolution, mais aussi bien souvent parce que, tout simplement, on avait assez des horreurs de la guerre, de la fatigue, de la misère et de la boucherie, avaient décidé de se mutiner, et la seule réponse qu'ils ont eue, c'est d'être passés par les armes. Cette chanson, c'est Mutin de 1917.
Vous n'êtes pas au monument aux morts, vous n'êtes même plus dans les mémoires, comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes morts, et deux fois morts, à vos petits-enfants on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas. Mutin de 1917. Sur votre dos, les Joffre et les Nivelles faisaient carrière dans les états-majors. Leur humeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle? Au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était le temps béni de l'empoignade. Vous parlez d'une belle occasion. Vous aviez fait tant d'assauts inutiles, juste pour corser le communiqué. Vous vous sentiez tellement cocufié, tellement pris pour des imbéciles, que vous avez voulu que ça s'arrête, cet abattoir tenu par la patrie, cette nationale charcuterie, mutin de 1917. Avant l'attaque, arrivaient les cercueils, et vous coupiez votre pain sur leur planche, tout juste si le crêpe à votre manche n'annonçait votre propre deuil. Par malheur, la France n'était pas prête, se révolter lui paraissait énorme, elle bavait encore devant l'uniforme, mutin de 1917. L'histoire vous a jeté dans ses égouts, cachant sous les flots de la Marseillaise qu'une bonne moitié de l'armée française brûlait de fer comme vous. Un jour sortirez-vous des oubliettes, un jour verrons-nous gagner votre cause. J'en doute à voir le train dont vont les choses. Mutin de 1917. Mutin de 1917.
Mutin de 1917, interprété par Serge Girouillot en hommage à tous ceux qui avait crié à bas la guerre au printemps 1917 durant cette grande boucherie de 14-18. On va poursuivre cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire, avec notre premier volet sur les brèves des luttes sociales et syndicales d'ici et d'ailleurs.
Oui, en effet. Il y en a. Donc, je vais commencer cette rubrique donc de lutte sociale par une qu'on a pas tellement parlé sur les chaînes de télévision, de radio, etc., nationales, et pour cause. C'est à Paris et sa région, et je vous parlais des travailleurs, des travailleuses sans papier, 300 personnes pour la régularisation de leur situation. Alors certaines pouvaient penser que depuis des années de lutte, la chose entre guillemets était réglée. Eh bien, c'était de la naïveté. Ces personnes sans papier, travailleurs, travailleuses, viennent de le rappeler auprès de leurs entreprises en cette fin octobre avec une dizaine, voire 11 piquets de grève et soutien de la CGT. Si les conditions de travail sont lamentables pour les travailleurs et travailleuses en règle, entre guillemets, encore une fois, elles le sont davantage pour les personnes sans papier. Dans cette nouvelle lutte pour obtenir la liberté, on notera l'intervention des forces de l'ordre, quand même, pourquoi pas, appelées à la rescousse par le patronat et la préfecture. Toutefois, y a un petit coin de soleil, on va dire, dans cette affaire. Toutefois, donc, des protocoles de fin de conflit ont été signés. Ici, quelques responsables se sont engagés à fournir tout document nécessaire aux sans-papiers, travailleurs et travailleuses, c'est pour obtenir le fameux CERFA, et l'embauche sous contrat en bonne et due forme. Ça concerne surtout des entreprises sur lesquelles étaient dirigées donc ces luttes, des entreprises intérim à qui nous souhaitons une prochaine visite sérieuse de l'inspection du travail et un suivi d'autant sérieux. Et au 30-10, eh bien, deux piquets de grève tenaient encore une place de lutte, on peut dire, dans un excellent quartier que je connais bien, celui de Belleville, mais il y a eu longtemps, côté 19e, et également à Bobigny et aussi à Paris 10e, donc un arrondissement voisin du 19e et du 20e, par le collectif des travailleurs sans papier de Vitry. On peut se rappeler aussi, sans mal, parce que ça avait fait écho quand même à l'époque, c'est le mouvement des travailleurs sans papier, donc de 2006 à 2010, via aussi 2018-2019, avec une intersyndicale de classe, de lutte de classe, avec la CGT, la CNT, Solidaire, FSU, la CFDT et l'UNSA. Organisation aussi de piquets de grève et d'assemblées générales, et puis aussi, on peut dire, un collectif de soutien quand même qui était assez fort. Voilà pour ce qui est de cette page sans papier. Alors maintenant, on va revenir dans du classique, si j'ose dire, avec Branges. C'était en mois de novembre, donc je commence déjà par ce mois-ci. On verra après pour ce qui s'est passé dans le mois d'octobre. J'ai tout ça sous le coude. Alors pour le mois de novembre, donc à Branges, c'est en Saône-et-Loire, avec 300 syndicats sur les rangs et 60 grévistes. C'était les 4 et 5 novembre. Chez LDC Bourgogne, alors qui est un abattoir et découpe de volailles, avec FO, la CFDT, donc l'UNSA, donc les trois syndicats, à 3h du matin, à l'usine même, pour l'équipe du matin. La direction ne verse plus la prime d'intéressement pour 2021. Une augmentation de 0,8% a été donnée grassement au mois de mars. Eh bien, ça ne remplit pas le porte-monnaie, évidemment. Les conditions de travail, elles sont moches. Il dénonce également les cadences menées à la charge, au pas de charge. Les revendications sont dans le texte. Ils exigent également les 2,2% de plus sur le SMIC et contre les 50% qui ont été grassement, encore une fois, donnés aux actionnaires sur les dividendes. À Saint-Julien de Concelles, c'est dans Loire-Atlantique, n'est pas coutume, c'est la Poste qui revient un petit peu comme... ça revient comme un boomerang, en fait. Et c'était le 2 novembre avec une grève qui s'est terminée donc le 4 novembre pour une quinzaine de facteurs et factrices de la plateforme de distribution du courrier. Alors la revendication était précise, titularisation de 3 employés intérimaires en poste depuis plusieurs années et pour 3 ans de contrat. La peau du citron, donc, en quelque sorte, c'est la CGT et les 15 grévistes qui ont mené la lutte à la victoire et l'obtention donc d'un CDI pour chacun d'entre eux. À Marly, c'est dans le nord, c'était fin octobre, début novembre. Marly, c'est dans le nord, donc je disais près de Valenciennes, avec une grève chez DCX Chrome. L'activité est dans la raison sociale, on chrome. Eh bien, les salaires, eux, ne sont pas chromés. Le conflit a débuté le 19 octobre dernier pour se finir fin de ce mois-ci, du mois d'octobre et de début novembre, avec un peu plus de bonheur qu'avant. La grève, malgré les huissiers envoyés par la direction contre les 62 salariés qui ont obtenu de 40 € à 50 € par mois. Une prime également a été obtenue de 1 000 € pour tous, intérimaires compris, et le paiement aussi, il faut le signaler, le paiement à 50% des jours de grève. à Révigny sur Ornain, c'est dans la Meuse. Et encore une fois, une grosse société qui réapparaît sur le champ des luttes, bah, c'est ArcelorMittal, une semaine grévée au 5 novembre, et puis un accord de principe sur l'intéressement. Celui-ci devait perdre 30%, pas de ça, Lisette, on dit en cœur la soixantaine de grévistes. Quant à la direction, elle a préféré abdiquer. Les ouvriers toucheront pas moins de 3 000 euros comme cette prime de 2020, selon la CGT. La grève a été reconduite alors que la direction comptait sur un essoufflement qui a changé de camp au bout du compte. Elle ne paiera pas les 6 jours grévés, par contre. Ploermel dans le Morbihan, c'est chez PEP, produit élaboré à partir d'œufs frais, donne des précisions quand même. Ce 2 novembre, c'est la grève avec la CFDT et se poursuivait le 3 pour 55 personnes. Alors qu'est-ce qui pêche ici? Eh bien, ce sont les NAO, les négociations annuelles obligatoires. Les NAO anticipées, s'il vous plaît, pour 2022. Alors pourquoi anticiper? Parce que la direction se la joue profil bas, se fait absente de propositions. Les propositions, c'est rien du tout. Pour les salariés, c'est 5%, pas un point de moins. Et puis, pendant qu'on y est, aussi, il faut parler de l'effectif, les conditions de travail dures, à cause d'un turnover perpétuel. Alors, pas sur le piquet d'ailleurs, ce turnover, puisqu'il y avait toujours une centaine de personnes qui ont pris place sur ce piquet. Et 24 heures sur 24. À Combronde, c'est dans le Puy-de-Dôme. Alors là, c'est une suite. Depuis le 22 septembre, il y a une grève chez cette entreprise Dachser. 70% de participation quand même au 3 novembre sur la plateforme logistique par les salariés de quai qui sont en CDI à 1250 euros net mensuels. Conditions de travail ici, les intérimaires par dizaines pour 1000 tonnes de colis à charrier de camion en camion. La multinationale Dachser pèse près de 6 milliards d'euros en chiffre d'affaires et n'hésite pas à faire venir des salariés d'autres sites pour casser la grève. Alors ambiance évidemment, il y a eu le soutien de salariés de sociétés voisines, la colère est venue par l'annonce que les heures supplémentaires ne seraient plus majorées. En Vendée, maintenant, sur 4 sites du volailler, encore un autre, du volailler Maître Coq, ce 4 novembre, c'est la CFDT qui s'engage dans un combat pour réévaluer les salaires. 100 euros de mieux, ça a été refusé, évidemment, alors que le Maître Coq est riche des rassemblements prévus sur les 4 ateliers de production, 2000 salariés. Le dernier conflit date de 2018 avec des conditions de travail qui avaient été à ce conflit amélioré. À Neuville-les-Dieppes, dans le département de la Seine-Maritime, c'est les grèves qui se poursuivent dans les magasins de l'enseigne Carrefour Market. Une dizaine de grévistes sur 42 employés ce 6 novembre qui réagissent donc à propos qu'ils et elles vont passer entre les mains, je dirais entre les griffes d'un locataire géant en 2022. Déjà qu'à cette date, il y a pénurie de personnel, salaire au ras du gazon, précarité des contrats qui amènent des conditions de travail déplorables. En somme, le terrain a été préparé pour un bel avenir capitaliste. La CGT est dans la bergerie du profit, donc là aussi, c'est à suivre. Le 4 novembre, à Argonnais, en Haute-Savoie, c'est un autre grand nom de la production française, c'est Dassault, je citais Dassault, donc la CGT, c'était une trentaine de manifestants, une manifestante, un piquet de grève devant l'usine à 6h du matin, et ce jour précisément se tenait à Paris une réunion de la direction générale de Dassault Aviation qui devait discuter des salaires et décisionner. À Argonnais, les entrées sont bloquées, c'est un site site clé argonnais de l'entreprise Dassault depuis 50 ans. Il y est construit le Rafale. La CFDT s'est engagée aussi dans la pression donc ouvrière. La gendarmerie a pris aussi la place avec une quinzaine de lardus. Des fois qu'on vendrait, enfin les guéristes, les grévistes, un trésor de guerre, de grève, ou voire vendre deux ou trois rafales, pourquoi pas. Hein. Et on va passer de l'autre côté, avec de l'autre côté des océans, avec la Réunion. C'était le 4 novembre, avec une grève illimitée chez Batmonte. Et c'est moi, c'est pas le chocolat, hein, c'est moi, c'est une entreprise de construction métallique. Et il y avait là la trentaine de salariés en colère. Une prime de gratification équivalente à un mois de salaire va leur être chouravée. Alors en piste pour la bagarre, pour la bataille du pouvoir d'achat, et plus avec un 13e mois fixe et des revendications avec la mise en place d'une caisse de prévoyance, la mise en place d'un CSE, le retrait de sanctions disciplinaires et la mise en place d'une unité économique et sociale, c'est-à-dire une UES, entre Batmonte et C'est moi. Ça se pratique assez régulièrement, ce genre de... Donc une UES, mise en place donc d'une unité économique et sociale. Voilà pour cette première page de lutte.
Eh ben on va peut-être faire une nouvelle page musicale antimilitariste.
Bah le déserteur, ça te va ?
Le déserteur de Boris Vian, c'est impeccable pour faire écho.
C'est pas Boris Vian qui va l'interpréter.
C'est
là,
Serge Duruyot,
c'est le camarade Serge
qui l'a écrit. Encore une fois, pour faire écho à cette revendication antimilitariste en cette veille de commémoration de l'armistice de la Grande Boucherie de 1914. Et puis après, on fera une petite page internationale.
Voilà le classique déserteur.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai par les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer.
Voilà, encore une fois, merci Serge. Donc, c'est un peu swing, hein, enfin, quand même, c'est pas mal, remarque. Hein.
Cette version du Déserteur. Voilà. Mais je préfère celle qui se termine, qui a été réadaptée, qui se termine « Édite à vos gendarmes que je sais tirer ».
Voilà. Voilà, en effet, il y a toujours eu deux versions discutées. Enfin bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. On a autre chose à dire. Vous êtes toujours à l'écoute de Idées Noires, donc de l'Union communiste libertaire, avec David et Daniel au micro et à la technique. On va aborder
une petite page internationale.
La partie internationale, la Pologne, voilà, entre autres.
On l'avait dit, une page internationale, en effet, qui va nous emmener à l'est de la Pologne, sur la frontière biélorusse et polonaise, pour faire écho à la situation dramatique. C'est le moins qu'on puisse dire, que vivent des migrants et réfugiés depuis quelques temps. Alors depuis quelques jours, les médias occidentaux sont ouverts à cette situation alarmante et dramatique et commencent à en faire écho. Pourtant, ça date, c'est pas nouveau. C'est une situation qui a commencé cet été, à la mi-août, dans les alentours de Białowieża, qui est une province à l'est de la Pologne, où la situation a commencé mi-août par l'arrivée d'une cinquantaine de personnes, essentiellement des familles avec des jeunes enfants qui étaient pour la plupart arrivés d'Irak et d'Afghanistan. En fait, ces migrants qui arrivent du Moyen-Orient arrivent par avion, qui ont été mis en place par la Biélorussie, qui leur accorde un visa touristique et on les laisse rejoindre la frontière polonaise du côté biélorusse. Mais ils n'ont aucune possibilité, s'ils n'arrivent pas à franchir la frontière, de faire marche arrière. On pourrait très clairement dire qu'ils sont instrumentalisés par le pouvoir biélorusse, qui ensuite les nasse dans cette région-là, le long de la frontière, et leur empêche de faire marche arrière. Alors les autorités biélorusses leur fournissent de quoi survivre, de quoi charger leur portable, un peu d'eau, mais à condition de faire régulièrement des tentatives pour tenter de traverser la frontière. Comme on l'a dit, pour eux, il n'y a pas de retour possible du côté biélorusse. Hein. S'ils le tentent, on les chasse très clairement en essayant de les... On chasse tous ceux qui essayent de faire marche arrière. Certains enfants auraient même eu des traces de morsures de chiens de la douane et de la police biélorusse qui les repoussaient côté polonais. Et ces migrants, en fait, souhaitent très clairement demander l'asile en Pologne. Certains prétendent même avoir collaboré avec l'armée polonaise en Afghanistan, parce que pouvoir demander le droit d'asile en Pologne, c'est aussi une possibilité de rentrer dans l'Union européenne. Or, depuis en fait le début de cette crise, l'État polonais refuse tout simplement d'enregistrer ces demandes d'asile. Et tous les réfugiés qui arrivent à travers la frontière sont ramenés à la frontière par la douane polonaise, et les habitants de cette région, comme les organisations non gouvernementales, témoignent bien souvent d'une grande violence qui est faite contre ces migrants. Les familles sont parfois séparées, lorsque par exemple la mère se fait arrêter alors que ses jeunes enfants arrivent à s'enfuir, ils se retrouvent seuls ensuite dans la forêt, ou alors ils sont parfois repoussés par les autorités contre les barbelés dans des conditions extrêmement violente. C'est cette situation alarmante et dramatique qu'on veut signaler. Aujourd'hui, peut-être de centaines de migrants qui sont ainsi bloqués le long de cette frontière. Il y a des personnes qui ont fait plus de 10 fois la tentative d'aller-retour entre les deux frontières. Les ONG et même les médecins ont de leur côté toujours pas été autorisés à rentrer dans cette zone qui est déclarée zone de crise. Et cela malgré les nombreuses demandes qui ont été faites. Alors, il y a de vrais problèmes de santé qui se posent du côté des migrants, essentiellement dû au froid, mais aussi au manque d'eau potable et de nourriture. Là encore, de nombreux enfants ont été aperçus en train de mâcher des brindilles dans la forêt pour tromper leur faim. Il y a des femmes enceintes qui sont cachées dans la forêt. Et c'est très difficile pour les médecins qui le souhaitent, en tout cas pour les ONG qui regroupent des médecins bénévoles, urgentistes, de pouvoir intervenir et de mettre des actions en place.
place, même si un dispensaire a tenté d'être mis en place dans une des petites villes, pas trop loin, mais ils subissent régulièrement les tracas et sont harcelés par la douane. Alors officiellement, il n'y a pas eu de mort en septembre, mais un corps a été retrouvé la semaine dernière, et selon un certain nombre de bénévoles qui se trouvent sur place, l'armée polonaise déplacerait discrètement les corps en Biélorussie, où ils seraient ensuite enterrés par l'armée biélorusse. Il faut savoir qu'en ce moment, là, début novembre, dans cette région, il gèle, qu'il n'y a pas de source d'eau potable, qu'on est dans une zone avec d'une forêt primaire marécageuse qui est assez hostile, où il y a encore pas mal de loups qui vivent, et que l'hiver, là-bas, il est particulièrement rude, hein, que sous une couche de neige qui peut être souvent épaisse, il peut parfois faire des températures qui atteignent jusqu'à moins 20 degrés. Donc vous imaginez les conditions qui sont dramatiques et qui sont vraiment de l'ordre de la survie pour ces réfugiés et ces migrants qui se cachent dans la forêt le long de cette frontière. La seule réponse qu'envisage aujourd'hui la Pologne et la Biélorussie, la Pologne, ça serait de construire un mur séparer sa frontière de la Biélorussie. Un mur qui devrait être rapidement construit pour un budget de 350 millions d'euros. 350 millions d'euros, ça en ferait la structure la plus chère en Europe dans le genre. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. On peut rappeler aussi qu'on se trouve dans une des régions les plus pauvres de la Pologne. C'est des terres hostiles où la vie humaine n'a pas toujours eu beaucoup de valeur et où il y a quand même des habitants qui essayent de se mobiliser. Il y a une action qui a débuté qui a été lancée au départ par une famille et qui a été reprise, qui consiste à mettre des lumières vertes aux fenêtres des maisons où les réfugiés peuvent venir chercher de l'aide. Mais il faut savoir aussi que dans cette région qui est une des plus pauvres de Pologne, la droite politique est très présente et que la population est encore souvent à l'écoute de l'église et des curés, même si l'est de la Pologne est un peu plus orthodoxe que le reste du pays. Mais en tout cas, la peur de l'islam est présente et ça aide pas à ce que certains ouvrent leurs portes ou agissent en solidarité avec les migrants. En tout cas, aujourd'hui, la situation, elle est extrêmement tendue. Les médias rapportent que des groupes de très nombreux migrants ont essayé de forcer la frontière à plusieurs reprises en masse, peut-être des centaines de personnes ensemble, qu'il y a des postes frontières qui ont été fermés, que les ONG polonaises ont lancé un appel international pour faire venir des observateurs internationaux et extérieurs, parce que ce qu'on craint aussi par-dessus tout, c'est que Loukachenko, le dictateur biélorusse, veuille provoquer une escalade de violence parce que tout simplement c'est la façon dont il renforce son pouvoir et dont il affirme son nationalisme. Il a fait d'ailleurs, pour faire augmenter la tension, il a fait arrêter des représentants de la minorité polonaise en Biélorussie. Il n'y a pas très longtemps, il a annoncé aussi que Bialystok, une ville à l'est de la Pologne, devrait appartenir à la Biélorussie. Et donc, on se demande si le chaos qui est en train d'être semé par les autorités biélorusses dans cette région n'est pas sans rappeler ce qui a pu se passer en Crimée. Et est-ce qu'on n'est pas vers une tentative de tension nationaliste qui pourrait dégénérer militairement, ce qui serait particulièrement grave pour les populations, qu'elle soit biélorusse ou polonaise, de ces deux régions. Voilà, donc une zone de tension extrêmement, extrêmement difficile, humainement pour bien évidemment les migrants et les réfugiés, mais aussi particulièrement inquiétante pour la population polonaise et biélorusse dans ce contexte d'escalade nationaliste et militariste qui pourrait avoir de graves conséquences pour ces deux pays et pour les populations qui vivent dans ces régions et au-delà de ça pour le peuple polonais et biélorusse. En attendant, sur place, tout le monde ça semble complètement craqué, que ça soit les habitants comme les ONG, comme même les soldats de l'armée polonaise qui se trouvent à gérer des situations humainement intenables. Et on est vraiment vraiment dans une situation dramatique et alarmiste qu'on souhaitait dénoncer sur cette antenne de Radio Canut. Et on, bien évidemment, on ne manquera pas de vous tenir au courant dans nos futures émissions si on a des informations, notamment comme là, des informations de première main dont qu'on remercie de nous les avoir transmises. Mais voilà, c'est quelque chose qui est particulièrement inquiétant et on voit encore comment le nationalisme et le militarisme, les frontières et les États peuvent instrumentaliser la misère humaine et mettre les gens dans des situations dramatiques. Voilà, c'est sur ces tristes informations et ce triste constat qu'on termine cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire sur ce 102.2 de Radio Canut. On se retrouve bien évidemment pour une nouvelle édition d'Idées Noires, mercredi prochain à 20h
tout à
sur
fait.
Cette antenne. Moi, je vous retrouve après notre générique pour l'émission
L'excellente émission.
Exactement. Sur le thème de l'antimilitariste, il se doit là aussi.
Tout à fait.
Et puis Idées Noires, c'est la semaine prochaine à 20h.
Voilà. Et puis, n'oubliez pas La Plume Noire, librairie libertaire, autogérée, 8 rue Diderot dans le 1er arrondissement de Lyon. On a plein de trucs intéressants. Allez, salut, à mercredi.